Déjà le 4 février, et nous allons continuer notre grand sujet, les caractères de la vraie foi, où ce matin nous envisagerons surtout, est-ce que nous avons une croyance ou est-ce que nous possédons véritablement la foi? Seigneur, nous voulons te demander que tu ouvres nos cœurs et que par la puissance de ton esprit, tu captives toutes nos pensées et que nous puissions recevoir ta parole au plus profond de nos âmes et que ton esprit, dans les jours à venir, nous la rappelle afin que quotidiennement nous puissions agir selon ce que tu nous auras enseigné pour ta seule gloire et pour qu'un témoignage dans ce Québec où nous vivons soit rendu auprès des âmes qui ignorent encore ce qu'est la foi véritable. Pour ta seule gloire. Amen. Ce matin, quelqu'un m'a demandé si, après avoir bu du lait, le lait de la parole, on passait tout de suite à la viande, ou bien si on pouvait passer par le gruau, entre deux. Hein. Alors, je pense qu'on passe aussi un peu par le gruau, mais j'espère qu'à la fin de cette rencontre, nous serons tous capables de supporter la viande, comme le dit le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, que nous aurons grandi, que nous nous serons fortifiés. Nous avons dit hier soir que le texte central de l'Ancien Testament concernant la foi se trouvait dans quel prophète? Le prophète Habacuc. Je ne sais pas si quelqu'un a eu le loisir hier soir ou ce matin tôt d'ouvrir sa Bible au prophète Habacuc et de lire en particulier ce verset 4 du chapitre 2. En tout cas, vous l'aurez retrouvé ce matin. Dans un temps où les jugements de Dieu doivent fondre sur un peuple qui connaît la vérité, mais qui ne la pratique pas, et nous sommes au fond dans un temps pareil, hein, c'était déjà le temps d'Habacuc, parmi le peuple de Juda, on connaissait la vérité, mais on n'en vivait pas. On croyait en l'existence de Dieu, mais on vivait comme si Dieu n'avait pas parlé. Et alors le jugement allait venir par un peuple païen et qui allait être employé par Dieu pour châtier ceux qui avaient la connaissance du vrai Dieu et qui ne se souciaient pas de sa parole. Alors la question se posait, est-ce qu'on doit combattre contre ce peuple qui va nous envahir? Qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, dans une période pareille, le juste vivra par la foi. C'est une vie individuelle de foi qui nous est demandée. On ne peut rien faire contre le jugement de Dieu quand il doit venir. Le jugement de Dieu, dit l'Écriture, il doit commencer par quoi? Par sa maison. Et vous ne pourrez pas empêcher le jugement de Dieu. Car on ne se moque pas de Dieu, et le dernier verset que nous avons lu ce matin dans notre introduction, c'est que c'est un Dieu vivant, et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est question de prendre Dieu maintenant au sérieux. Alors, si on prend Dieu au sérieux, nous désirons vivre vraiment une vie de foi. Et ce texte d'Habacuc, je l'ai déjà mentionné hier soir, est si important qu'il est repris à 3 reprises dans le Nouveau Testament. En Romains 1, verset 17, quand Paul nous dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et du Juif premièrement et du Grec, « Et puis, il ajoute, révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra de foi. Donc, Romains, chapitre 1, verset 17. Et là, l'emphase est mise sur le mot justice. La justice de Dieu est révélée par la foi. C'est pas la loi qui nous révèle vraiment la justice de Dieu. La loi nous révèle une justice humaine, mais c'est la foi qui nous révèle une justice vraiment divine. Le deuxième passage où nous trouvons ce texte cité, c'est dans Galates 3, verset 11, où alors l'emphase est mise sur le mot « foi » en opposition à la loi. Je vous lis ce texte, Galates 3, verset 11, c'est de nouveau la citation d'Habacuc, seulement pour vous montrer l'importance de ce verset 11, « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et c'est justement là le mot « foi » qui est mis en opposition avec la loi. Parce que si je prends seulement la loi pour devenir juste devant Dieu, j'essaye de l'accomplir et qu'est-ce que je fais comme expérience? Au lieu de l'accomplir, je la transgresse. Et puis même si j'arrivais à accomplir la loi, quelle serait ma justice? Il a dit, faites ces choses et vous vivrez. Mais un homme qui aurait encore accompli la loi, il aurait donc une justice humaine. Hein? Faites ces choses et vous vivrez. Mais il ne sortirait pas de la justice humaine. Tandis que la foi, et nous aurons l'occasion de le voir, nous révèle une justice qui n'est pas humaine seulement, mais une justice divine. La justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui a été manifestée dans la résurrection de son Fils. Son Fils a été crucifié, lui qui avait parfaitement accompli la loi. Et comment Dieu a montré que son Fils était juste? En lui donnant la force de descendre de la croix? Non, en faisant quelque chose de plus merveilleux encore. Hein? En laissant son Fils mourir, alors que tout le monde a dit, ben voilà, c'est pas le Fils de Dieu, mais une fois qu'il était dans la mort, il l'a fait sortir de la mort. C'est là qu'il a montré sa justice, une justice qui dépasse tout, et il l'a fait asseoir où? À la droite de Dieu. Et notre justice à nous, c'est quelle justice? La justice du Christ. Il est notre justice. Alors, où va nous conduire la foi? À vivre simplement sans transgresser la loi humaine? Non. La justice que nous avons par la foi va nous conduire là où le Christ se trouve. Nous serons avec lui à jamais. Voilà l'avantage de la justice qui vient de la foi et non pas de la loi. C'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, que Dieu nous fasse comprendre ce que c'est qu'être revêtu de la justice qui vient de la foi. Elle dépasse la terre, elle nous amène jusqu'au ciel, dans la gloire. Et enfin, alors, le troisième passage où ce texte d'Habacuc, donc de l'Ancien Testament, est cité, c'est dans les versets que vous avez lus ce matin, dans Hébreux 10, verset 38e, où alors l'emphase est mise surtout sur le mot « vivre ». Vivre, n'est-ce pas? Dans Romains, c'est sur le mot « justice ». Dans Galates, c'est sur le mot « foi » que l'emphase est mise. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, c'est sur le mot « vivre ». Et je demande à Dieu que son esprit nous fasse comprendre ce qu'est une vie de foi. Vivre de foi. Le juste vivra de foi. Alors on reprend à partir de ce verset 32e. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté un peu sur chacun de ces versets. Dans ces quelques versets, vous avez déjà 7 traits, 7 caractères de la vraie foi, de cette foi que l'on pouvait trouver dans l'Église primitive, dans ses premiers croyants, ce qui caractérisait leur foi. Mais nous dirons ceci, c'est qu'il est toujours regrettable que l'on soit obligé de regarder en arrière, comme les croyants hébreux sont invités à le faire dans ce passage que vous avez lu. Il doit leur dire, mais souvenez-vous de ce qu'était au fond votre foi dans les premiers jours de votre conversion. C'est toujours pénible qu'on doive regarder en arrière, parce que ça veut dire qu'on n'a plus la même force, la même joie, la même paix, disons le même amour qu'autrefois. Est-ce que ça vous touche, ça? Est-ce que vous vous souvenez d'un temps où c'était quand même un peu différent qu'aujourd'hui? Dans ces premiers temps où vous aviez été éclairé, hein, où tout à coup la lumière s'est faite dans votre cœur, sur votre état spirituel, puis en même temps sur ce grand Sauveur qui vous était donné en Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce temps. Mais voyez-vous, je dis que c'est toujours un peu regrettable quand on doit nous rappeler le passé. Parce que l'apôtre Paul, lui, il ne rappelait pas le passé. Nous avons fait ici même l'étude de l'Épître aux Philippiens, et qu'est-ce qu'il disait, lui? Oubliant les choses qui sont derrière, tendant avec effort vers celles qui sont devant. Nous courons droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout est devant et il doit y avoir progression. On ne doit pas simplement reconnaître un recul. Il y a progrès. Le sentier des justes, dit Proverbe 4, verset 18, il est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'à ce que le plein jour soit établi, jusqu'à ce que nous arrivions au plein midi. Mais nous, on en est toujours arrivé à se dire, c'est tout à fait normal que le premier amour baisse. Ça ne peut pas être autrement. Et pourquoi est-ce que vous ne vous diriez pas, ce qui serait tout à fait normal, c'est que je retrouve le premier amour. C'est que nous soyons replongés dans ce premier amour qui va nous redonner joie, paix, force et courage pour aller de l'avant. Parce que les épreuves que vous avez eues dans le passé ne sont peut-être rien en comparaison des épreuves que nous devrons traverser. Et nous devons nous préparer à pouvoir traverser les épreuves sans renier le Seigneur Jésus. Notre fidélité, elle doit aller jusqu'à la mort. Et avant la mort, parce que ce n'est pas tellement de mourir qui est grave, hein, mais c'est de souffrir avant de mourir. C'est ces souffrances par lesquels les croyants doivent passer dans les prisons, dans la torture, parce qu'ils veulent rester fidèles à leur foi. Donc, il ne nous faut pas une foi faible. Il nous faut la plénitude de la foi pour qu'on puisse dire, ben, ils peuvent tuer mon corps, mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'aime tellement ce verset hein, de Jésus qui dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr. Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent plus rien. Vous ne trouvez pas que c'est formidable ça? Une fois qu'ils nous ont tués, ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils nous ont tués. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne peuvent plus même nous faire souffrir. Ils ne font plus rien. Alors, ça, je trouve que c'est un verset formidable. Hein. Mais craignez celui qui, après avoir tué le corps, hein, peut faire périr l'âme. Alors, nous allons nous reprendre, nous allons nous ressaisir, nous laisser ressaisir par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand même, nous revenons à nos textes, puis nous allons voir comment était cette foi des croyants de l'Église primitive. Donc, l'auteur des Hébreux a écrit à des gens qui ont entendu la parole et qui ont été éclairés, et il leur dit, mais souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés. Alors, vous voyez que vous pouvez vous-même trouver déjà, parce que je ne les ai pas mis, les caractères de la vraie foi. La vraie foi, qu'est-ce qu'elle apporte d'abord? Ceux qui ont été éclairés, qu'est-ce que ça veut dire? Une lumière, hein? Les caractères de la vraie foi, c'est que la vraie foi, c'est une lumière. La vraie foi nous éclaire. Elle éclaire. La foi est une lumière qui nous éclaire. Mais souvenez-vous de ce moment où vous avez été tout d'un coup éclairé, d'abord sur votre état. Et quand on est éclairé sur son état, ça nous amène à quoi devant Dieu? À la repentance. Parce que, en même temps, la lumière se fait sur notre état, et puis la lumière nous est donnée aussi sur ce qu'est Dieu. Et ce qu'est Dieu, nous le voyons en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Et quand ma vie est soudainement mise en présence de la lumière du Seigneur, je me vois dans ma misère, dans mon état. Je suis éclairé. Et alors là, j'ai besoin d'un sauveur. C'est pas un sauveur que on m'oblige à accepter dans une réunion d'évangélisation, hein, mais c'est un sauveur dont j'ai besoin parce que la lumière m'a éclairé sur ma misère et je vois ma condition de pécheur. Je suis perdu. Alors, souvenez-vous de ce moment-là où vous avez été éclairé. Et une fois qu'on a été éclairé, un deuxième trait qui manifeste ce que sont les chrétiens qui ont la vraie foi. Une fois éclairé, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit en nous? Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Est-ce qu'on se convertit pour que tout aille bien? Est-ce que Jésus a dit, si vous vous convertissez, vous n'aurez plus d'épreuves? Vous allez voir, n'est-ce pas, c'est la solution de tous les problèmes, accepter Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le sauveur, il est la délivrance, il est la porte, vous allez vous en sortir avec Jésus-Christ? C'est ça la prédication de l'Évangile? Vous avez vu Jésus quand quelqu'un lui disait, Seigneur, moi je voudrais te suivre, qu'est-ce qu'il lui disait? Oui, c'est très bien, bien, ça me fait plaisir. Ça va bien aller avec moi. Hein? Tu seras du bon côté, tu n'iras pas en enfer. C'est fini. C'est ça qu'il disait? Tu veux me suivre? Renonce à toi. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des retraites. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Il ne trompait pas son auditoire. Il ne trompait pas son auditoire. Il ne voulait pas des suiveux qui vont un petit bout avec lui, hein, puis après qu'ils repartent. Parce que... Non, il disait la vérité. Reprenez l'Évangile. Il nous faut nous pénétrer vraiment de l'enseignement du Seigneur aujourd'hui, pour que vous ayez une foi solide. Mais reprenez maintenant l'histoire des Actes. Ces gens ont été éclairés. Ils ont été convaincus de péché à la prédication de Pierre. Que ferons-nous? Ils ont eu le cœur saisi par ce sentiment de leur culpabilité Et ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Eh bien, repentez-vous et confessez vos péchés et croyez au Seigneur Jésus. Donc, la prédication produit la repentance dans le cœur, et puis au lieu que ces âmes restent dans la tristesse, dans la culpabilité, la prédication leur montre le Sauveur, le vrai Seigneur, et alors ils y croient. Et acceptant Jésus comme leur Sauveur, qu'est-ce qui leur est arrivé une fois qu'ils ont confessé Jésus? Ils ont eu des souffrances. De sorte que vous avez pu discerner que si la foi est une lumière, si elle vous éclaire, elle vous conduit aussi à un combat. Alors voilà un second trait. La foi véritable, c'est un combat. Et quand est-ce qu'il cesse ce combat? À la mort, hein? Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, mais il a combattu jusqu'au bout, jusqu'au bout. Quand on accepte Jésus-Christ, on devient un soldat de Jésus-Christ. Et tant que cette terre est occupée par le malin, par Satan, nous aurons à combattre. C'est ce que vous devez bien comprendre. Le combat ne cesse pas. Oui, dans le combat, Dieu vous donne du repos, et nous aurons l'occasion de parler du repos de la foi. Mais c'est le repos de combattant. C'est le repos de combattant. Alors, souvenez-vous du grand combat que vous avez soutenu au milieu des souffrances. Il y a de vraies souffrances. Regardez dans l'Église primitive, ceux qui ont cru, eh bien, ils étaient chassés de leur maison juive, et puis ils ont eu les persécutions, souvenez-vous d'Étienne, mais ils sont restés fermes dans ce grand combat, mais ils ont été exposés, verset 33, en spectacle aux opprobres, aux tribulations. Reprenez le chapitre 3. Du livre des Actes, et vous verrez que ces Juifs qui se sont convertis, après que Pierre ait accompli par la puissance du nom de Jésus ce miracle à la belle porte, hein, qu'est-ce qui leur est arrivé? Tout le monde a cru parce qu'il y avait eu un miracle? Parce que ce boiteux sautait de joie dans le temple? Non, ça a fait un rassemblement de gens, ça a troublé la ville, et on a mis les premiers croyants où? En prison. On les a traînés en spectacle, ils ont dû aller devant le Sanhédrin pour répondre de ce qui s'était passé. Mais souvenez-vous, ça n'a pas été facile. Vous avez eu toutes sortes d'opprobres, de tribulations. Ou bien alors, si vous avez été épargné, qu'est-ce que vous avez fait? C'est tellement beau ces versets, hein? On nous dit qu'on n'est pas nourri dans nos églises, mais lisez la parole. Puis lisez-la comme vous l'avez fait ce matin, en silence, dans vos chambres. Puis le Seigneur vous parlera. Vous associant à ceux dont la position était la même. Alors, si la foi est une lumière, si la foi nous éclaire, si la foi est un combat, vous le comprenez bien, hein, la véritable foi c'est un combat, la foi est aussi une communion. On ne souffre pas tout seul, on souffre avec ceux qui souffrent. Et il y a peut-être ici des personnes qui souffrent, ou qui ont passé par le deuil, ou par des circonstances difficiles, ou qu'ils puissent sentir pendant ces journées que nous sympathisons avec eux à leur souffrance. La vraie foi nous met en communion avec ceux qui souffrent. Vos souffrances sont les miennes, mais vos joies aussi sont les miennes. Nous communions aux joies, mais nous communions aussi aux souffrances. On s'associe à ceux qui sont dans les mêmes circonstances, et peut-être aussi par la prière, quand on pense qu'il y a des gens qui sont en prison, qui vont être torturés encore aujourd'hui, qui l'ont déjà été avant cette heure, eh bien, nous pensons à eux, nous nous souvenons d'eux. Verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous voyez, justement, c'est ça qui caractérisait l'Église primitive. On avait compassion pour les prisonniers. Mais prisonniers parce qu'ils avaient commis des crimes? Non. Mais parce qu'ils aimaient le Seigneur. Ils étaient en prison pour le Seigneur Jésus. Et même un autre trait, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ah, nos biens, on y tient quand même à nos biens. Eh bien, les premiers chrétiens, quand ils ont vu dans quelle situation, par exemple, se trouvaient ceux qui étaient rejetés, qui n'avaient plus de maison, et ils ont ouvert leur maison tant qu'ils en avaient une. Et puis d'autres qui avaient un champ ou des champs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu ce champ pour pouvoir aider ceux qui n'avaient plus rien, qui étaient démunis. Mais ils l'ont fait avec tristesse. Mais non, ils l'ont fait avec joie. Vous voyez, la foi dans ses débuts, la foi permet de sacrifier des choses, de renoncer à certaines choses auxquelles on tenait. Ah, ça c'était mon champ, de Barnabas, le fils de Consolation, qui avait un champ, il le vend et il apporte le prix aux pieds des apôtres, pour que ça puisse aider d'autres qui n'avaient peut-être pas de nourriture, parce que on les nourrissait, ces gens-là, dans l'Église primitive, comme ça se fait aussi. Bien souvent, on exerce l'hospitalité dans ces pays où les gens manquent du nécessaire. Bien, voilà, ça c'est tous les traits de la foi véritable. La foi véritable, elle fait penser aux autres, elle nous donne, mais en communion avec les autres, elle nous amène à un renoncement. Et voyez-vous, on nous a dit que le frère de nos amis qui se trouve ici, ils viennent de passer au feu, et bien leur atelier, leur usine a été brûlée. Bien, nous sympathisons avec eux, mais tout cela nous montre que tout ce que nous possédons, nous pouvons le perdre. Nous pouvons le perdre. Peut-être que nous ne voulons pas donner des choses volontairement, mais peut-être qu'un jour, ça peut nous être repris. De toute façon, n'attachons pas nos cœurs au bien de la terre. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Alors donc, cette foi est aussi un renoncement. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà ce que la foi met dans notre cœur. Bon, on nous prend cela, mais on ne peut pas prendre ces biens qui durent toujours. Puis ces biens que je perds aujourd'hui, je les aurais quand même perdus dans peu de temps. De toute façon, je n'en porterai rien. Ni je suis sorti du sein maternel, puis avec tous mes biens, j'irai dans mon cercueil. C'est ça, hein? J'en porterai tout avec moi. Il faut nourrir les vers. Mais non, mes amis, non, c'est pas ça. Nu, je retournerai. Alors, si on perd, c'est pas ça qui est important. Dans un temps comme celui-là, le juste vivra de foi. C'est ça, vivre de foi. C'est avoir toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Sur cette éternité qui va durer toujours. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Mais ça ne doit pas être un verset qui se trouve dans la Bible, puis dans un moment de découragement, on ouvre la Bible, on trouve ce verset. Hein. Ce verset doit être dans notre cœur, et le Saint-Esprit, au moment difficile, nous le rappelle. Parce qu'on peut, dans un moment difficile, on ne peut peut-être pas ouvrir sa Bible. Puis c'est toujours très dangereux de piquer des versets. Mais, parce qu'on peut tomber à côté. Mais ce qu'il nous faut, c'est que le Saint-Esprit devienne notre mémoire et que la parole du Christ, la parole de Dieu, habite dans nos cœurs par la foi et qu'au moment donné où nous avons besoin d'une parole, le Saint-Esprit nous rappelle cette parole. Et c'est vrai. Le Saint-Esprit vous rappelle cette parole. Vous vous en souveniez peut-être plus. Et tout à coup, voilà que vous découvrez que vous avez une mémoire. Hein? On dit, Dieu, moi, j'ai pas de mémoire. Ça ne sert à rien que je lise la Bible, je n'ai pas de mémoire. Non, lisez la Bible quand même. Et vous ferez cette découverte que le Saint-Esprit devient votre mémoire et qu'un texte que vous avez lu et que vous aviez peut-être oublié vous sera redonné. Au moment opportun, et cette parole sera une lampe à vos pieds, comme dit le psaume 119, verset 105, et une lumière sur votre sentier. Alors vous marcherez en sécurité et dans la paix. Vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Alors n'abandonnez pas votre assurance. Darby, qui est plus littéral, dit votre confiance. Hein? Mais parce que, au fond, la confiance, c'est le tremplin de la foi. Là, il faut avoir une confiance absolue dans les promesses du Seigneur. Confiance qui est une assurance, oui, hein, mais c'est cela. Alors, vous voyez, un autre caractère de la foi, qu'on voit dans ces passages de la foi primitive, c'est que ces croyants, ils avaient une confiance totale, une assurance totale. N'abandonnez pas loin votre confiance, à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Voyez-vous, ces croyants qui ont même été, si vous lisez le chapitre 11, des actes, après la persécution d'Étienne, ils ont dû même fuir leur pays, ils ont dû partir de leur pays. On leur avait tout pris. Et puis, ils ont dû aller à l'étranger, dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient, puis ils se plaignaient aux païens, puis aux juifs, ils disaient, on a tout perdu. Figurez-vous, on a été chassés. Nous sommes de pauvres malheureux. La charité. C'est ça qu'ils faisaient? Non. C'est comme ça que l'évangile a été annoncé par des gens qui n'avaient plus rien. Alors que nous, aujourd'hui, pour annoncer l'évangile, on tape à toutes les portes. On demande de l'argent partout. Toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Pourquoi faire? Pour annoncer l'évangile. Misère. Toute nue. C'est pas vrai. Si, comment est-ce que l'évangile était annoncé par des gens qui n'avaient rien? Mais, lisez le chapitre 11 du livre des Actes. Ces gens qui n'avaient rien, ces gens qui avaient tout perdu, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des plaignants, des gens qui disaient, voyez comme on est malheureux, on n'a plus que des haillons sur nous, vous ne pouvez pas nous donner un manteau, un par-dessus. Verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, et ils se plaignaient partout. C'est ça votre version révisée, hein? Annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent même aux Grecs. C'était donc les païens, et leur annoncèrent les mauvaises nouvelles. C'est ça? Ils leur annoncèrent, verset 20, ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui était avec eux? La main du Seigneur, oh, que nous puissions retrouver la main du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Un grand nombre de personnes crurent au Seigneur. Par quel moyen? Par des gens qui n'avaient rien, qui ne présentaient rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils parlaient? Du Seigneur Jésus. Et ils manifestaient. Oui, on leur avait tout enlevé. Ils ne parlaient pas de tout cela. Ils parlaient de ce qui leur restait. Qu'est-ce qui leur restait? L'essentiel. C'est ça la foi. Il leur restait le Seigneur Jésus. Il leur restait le salut. Parce que le salut, c'est pas quelque chose. C'était quelqu'un. Et le Seigneur, on n'avait pas pu l'enlever de leur cœur. Et même quand on a tué Étienne, qu'il a vu, lui, au moment de mourir. Il a vu le Seigneur Jésus. Et où est-ce qu'on l'a envoyé quand on l'a fait mourir? Au ciel, vers le Seigneur Jésus. Alors c'est pas catastrophique. Je vois Jésus. Puis son visage rayonnait déjà comme celui d'un ange. Il n'a pas eu besoin d'aller au salon funéraire pour qu'on lui refasse sa figure. Son visage rayonnait comme celui d'un ange. Sans embaumement. C'est beau la parole. Hein? Puis c'est actuel, puis c'est tonique, puis ça vous reste. Alors, les gens se convertissent au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils firent une propagande terrible. Non, le bruit en parvint aux oreilles. Quand il y a des vraies conversions, il n'y a pas besoin d'écrire des circulaires pour dire le nombre de conversions qu'il y a eu. Quand il y a réellement des conversions, ça se fait, ça se propage. Le monde voit qu'il y a des vies qui sont changées. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Vous voyez que ça va aussi vite. Qui envoyèrent Barnabas à Antioche lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu quoi? Le travail de ces gens? La grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, pas par les efforts que l'on peut faire. Vous êtes sauvés par la grâce. Quand il eut vu la grâce de Dieu, ce que la grâce de Dieu peut faire, il s'en réjouit et il les exhorta de rester d'un cœur ferme. Attaché à qui? Au Seigneur. C'est à la personne du Seigneur. C'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Méditez là-dessus. C'est se joindre au Seigneur. C'est appartenir au Seigneur. Et c'est seulement cette relation avec le Seigneur qui nous permettra de traverser les épreuves, de tout surmonter, et de rester fidèle. Une vie de foi. Donc, la vie de foi, c'est une assurance, c'est une confiance qui demeure. Et on reprend notre texte des Hébreux, où vous trouvez tous ces traits, en faisant cette lecture, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, ou une autre traduction dit de patience. La foi, c'est aussi une patience. Un des caractères de la vraie foi, c'est la patience. On n'a pas la chose peut-être tout de suite, hein, mais on sait que on l'obtiendra. Il n'y a pas de doute, même si ça met du temps. On reste persuadé que ce que Dieu a promis, il est puissant pour l'accomplir. Vous avez lu dans le chapitre 11, hein, la patience qu'il a fallu à un Abraham, à une Sarah, pour que la promesse s'accomplisse. Mais ils ont eu quand même cette patience. Car vous avez besoin de persévérance. Donc, la vie de foi, c'est une vie de persévérance, mais quotidienne. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Au fond, ce qu'il nous faut comprendre, si on se donne au Seigneur, c'est « Je me donne à toi pour que tu fasses en moi ton plaisir, que tu accomplisses ta volonté en moi. » Alors, si on laisse Dieu accomplir sa volonté en nous, eh bien, ensuite nous savons que nous recevrons ce qui a été promis. Verset 37, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Qui est celui qui doit venir? C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous attendons Jésus? Nous, on nous dit, mais vous ne pouvez plus nous parler du retour de Jésus, depuis le temps qu'on en parle. Et on arrive même à entendre ça dans nos milieux évangéliques. Oui, la foi est entamée. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est de croire ce que Dieu dit. Hein? La foi, c'est la croyance, avons-nous dit, qui repose sur le témoignage. Oui ou non, le Seigneur a-t-il témoigné qu'il reviendrait? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai à la Saint-Jamais. C'est ça? Vous connaissez la Saint-Jamais? Je reviendrai, puis un jour il sera venu. Hein. On l'attendra plus. Un jour il sera venu. Pendant 4000 ans, il était annoncé qu'un libérateur viendrait. Puis un jour, c'était la nuit de Bethléem. Il était là. Personne ne savait. Il était là. Et c'est des pauvres qui l'ont vu, les premiers. Puis c'est des gens venus d'Orient qui étaient partis. Avant même qu'ils ne naissent, pour arriver au moment, quelque temps après sa naissance. C'est beau, ce que Dieu a promis. Alors croyez-le, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Vous direz, oui, mais il me semble qu'il a tardé. Ben alors lisez, l'écriture c'est un tout, lisez dans Pierre, il n'y a pas de retard. S'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il patiente, parce qu'il voudrait qu'aucun périsse. Il a encore donné un temps de grâce, mais il viendra. Et alors en attendant, verset 38, mon juste vivra par la foi. Et c'est ça, vivre par la foi, c'est pas simplement demander des choses au Seigneur avec la certitude qu'il va nous exaucer, parce qu'on demande un tas de choses dont on n'aurait pas besoin souvent, hein, qui nous encombrent. Mais c'est cette vie de foi dans la personne du Seigneur. Quand on a la personne du Seigneur, on a tout pleinement en lui. Mais il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si tout d'un coup vous ne croyez plus, ce verset, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui a perdu la foi? Qu'est-ce que vous avez lu dans le chapitre 11? Parce qu'un verset éclaire un autre. Il est dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hein? Sans la foi, il est impossible de lui plaire, ou sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, c'est donc qu'il n'a pas la foi. Il a eu l'apparence de la foi. Il a eu une croyance, c'est ce que nous allons voir maintenant pour terminer. Mais il n'avait pas la foi. On avait adhéré intellectuellement à certaines vérités qui ont pu peut-être un temps nous réjouir, mais on n'avait pas vraiment la foi. Parce que si on se retire, eh bien, c'est qu'on s'éloigne du Seigneur. Et alors, quand on a connu le bonheur que Dieu donne, non, on ne peut pas se retirer. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors ne dites pas, mais moi j'ai peur d'être quelqu'un qui se retire. Quelqu'un est venu dimanche après un culte où j'avais prêché. Il m'a dit, j'aime bien voir quand même un homme comme vous qui avait plus de 50 ans de vie avec le Seigneur, puis vous êtes encore avec lui. Moi, il y a 6 ans que je suis au Seigneur et je me demande ce que je serai dans 10 ans. Il n'y a pas à se demander ce qu'on fera dans 10 ans. Il y a à dire au Seigneur, donne-moi d'être aujourd'hui ce que je dois être. Puis on va au jour le jour. Comptant sur quoi? Sur la fidélité du Seigneur. Vous croyez que moi je crois en ma fidélité? Donc je sais que tous les jours je peux tomber. Mais je crois en la fidélité de celui qui m'a sauvé. De celui qui me tient dans sa main et qui ne va pas me lâcher. Voilà ce que je crois. Alors verset 39, vous voyez bien, avec le verset 39, vous voyez bien que ce n'est pas des gens qui perdent leur salut. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Ceux qui se retirent, ils n'ont pas la foi. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes sauvés en espérance. Mais qu'est-ce qui va nous garder? C'est c'est, comme on va le voir dans l'épître de Pierre, c'est là, la foi. Vous êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps. Nous sommes gardés par la foi. Voilà encore un autre caractère de la foi qui sauve. La foi qui nous sauve, elle nous garde. C'est pas simplement que nous, nous avons gardé la foi, mais c'est la foi qui nous garde. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Quand les disciples disent, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, etc., que nous arrivera-t-il? Le Seigneur leur dit ce qui leur arrivera. Mais ensuite, dans le chapitre 15 de Jean, et j'aime tellement cette parole, le Seigneur dit à ses disciples, vous savez, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quel texte là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quand Satan vient nous dire, oh, tu risques d'être perdu, etc., etc. Arrière de moi, menteur. Arrière de moi, Satan, calomniateur, menteur. Oui, je le connais. C'est un meurtrier. Il voudrait nous détruire, nous enlever la joie, nous enlever la paix. Arrière de moi, Satan. Tout ce que tu dis de moi, de mes péchés, de toute ma misère, le Seigneur le sait. Il est mort pour un misérable. Et je reconnais que je suis un misérable. Mais quand on se reconnaît misérable, toute la miséricorde de Dieu vient à nous. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne résiste qu'à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce. Alors ne doutez pas, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se taire. C'est beau ce texte, vous ne trouvez pas? Souvenez-vous de ce qui était au commencement. Alors quelqu'un me disait, mais il faut parler de la foi primitive. Mais voilà, cette foi du commencement, cette foi primitive, ce qui la caractérisait, cette foi de l'Église du commencement, mais elle comprenait les souffrances, elle comprenait le combat, et au fond, cette foi, c'était une vie. Une vie. Vivre de foi. Et alors, vous voyez ces résultats de la foi produit chez les Hébreux au commencement de leur vie chrétienne. Quand vous avez lu le chapitre 11, vous avez pu découvrir que ces traits se retrouvent dans la vie des hommes de Dieu qui sont mentionnés dans le chapitre 11. Et ces exemples du chapitre 11 sont donnés aux Hébreux auxquels l'apôtre écrit sa lettre. Ils sont donnés ces exemples comme à nous, pour l'encouragement dont ils avaient besoin et dont nous avons besoin afin de persévérer jusqu'au bout dans la foi, quels que soient nos manquements. Et vous avez vu qu'il y a des noms d'hommes qui ont eu des manquements et qui pourtant n'ont pas perdu leur salut. Mais tous ces hommes, on pourrait parler des manquements de ces hommes, mais ce n'est pas ça que nous allons souligner dans un chapitre pareil. Le Seigneur ne souligne que leur foi, en partant de la foi d'Abel. Eh bien, nous ne voulons pas douter de notre si grand salut, et nous voulons nous souvenir de ce verset 11 où il est dit, et ça c'est un des caractères de la foi, c'est pas une définition de la foi qu'on a au verset 11, mais un caractère de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et puis c'est la démonstration ou c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. La foi, elle est active. Elle est énergique dans l'âme, et elle rend présent l'avenir, et elle rend visible l'invisible. Et c'est ça qui fait la force du croyant. La foi, c'est une vue sur des choses qui ne se voient pas. C'est en quelque sorte un sixième sens qui nous est donné par la grâce du Seigneur. Alors je voudrais maintenant souligner la différence entre une opinion que l'on peut avoir sur un sujet et une conviction. La foi, c'est une conviction. C'est une conviction, puis c'est une démonstration en même temps. Alors, souvenez-vous bien de cela. Le mot foi n'est pas synonyme du mot croyance, comme pourraient le faire penser nos dictionnaires. À l'heure actuelle, il est vraiment nécessaire, je le pense, de faire la distinction entre la croyance et la foi. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance et qu'est-ce que c'est que la foi? La croyance, c'est une opinion pure et simple qu'on peut avoir héritée de ses pères. Mes pères croyaient cela, moi je crois comme mes pères. J'ai la croyance de mes pères, j'ai la religion de mes pères. La croyance, c'est donc une opinion qu'on peut avoir héritée de ses pères, d'une tradition, ou qu'on a acquise par l'éducation reçue. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a des croyances juives, des croyances musulmanes, des croyances hindoues, comme aussi des croyances chrétiennes, que ce soit les croyances catholiques, que ce soit les croyances orthodoxes, ou que ce soit des croyances protestantes ou même évangéliques. Tandis que la foi est avant tout un acte du cœur qui engage la vie tout entière, la croyance est plutôt un acte de l'esprit, sans grande influence sur la vie pratique. Vous avez beaucoup de gens qui ont une croyance, hein, mais dans leur vie pratique, eh bien, ça ne se manifeste guère. Ils nous disent qu'ils ont une croyant, mais moi aussi j'ai une croyance. Et je vous répète, Caïn, il avait une croyance, mais il n'avait pas la foi. La foi, c'est un acte du cœur qui engage la vie tout entière, tandis que la croyance, eh bien, c'est un acte de l'esprit qui n'a pas beaucoup d'influence sur la vie pratique. La croyance, c'est au fond une adhésion intellectuelle à une doctrine ou à un ensemble de principes qu'on ne cherche même pas à analyser et encore moins à définir et qui laisse l'homme dans son état naturel. On peut avoir une croyance puis rester absolument les mêmes. Tandis que la foi, elle est une conviction ferme, elle est une conviction qui est constante et qui est entière. Et je dirais, cette foi, elle ne se transmet pas par le sang. Nous ne l'héritons pas de nos parents, on n'hérite pas la foi de nos parents, on hérite peut-être leur croyance. Mais la foi, nous ne l'héritons pas ni de nos parents, ni de nos amis, ni de nos frères. Elle ne sort pas de notre cœur naturel, mais elle est produite dans les âmes par quelle puissance? Celle du prédicateur? Non. Par la puissance de Dieu. Par l'illumination du Saint-Esprit et à l'ouïe de quoi? De la parole de Dieu. Et la foi, elle a pour objet la révélation de Dieu et elle se manifeste, comme j'ai essayé de vous le montrer, par une confiance totale au témoignage de Dieu et par une obéissance implicite à ses commandements. Dieu, vous avez vu dans le chapitre 11, hein, Dieu parle, les hommes qui entendent sa voix ont confiance, sont assurés que c'est Dieu qui a parlé. Ils ont confiance en ce qu'il a dit, puis ils disent, bon, ben, moi j'ai la révélation, j'ai la lumière. Non, ils agissent, ils obéissent, de sorte que la foi est une obéissant. Et tous les textes de l'Écriture vous montrent que la foi est une obéissance. L'apôtre Paul a reçu son apostolat pour amener les nations à l'obéissance de la foi. La foi est une obéissance. Et je dirais encore que si l'objet de la croyance peut rester vague et mal défini, si même, comme l'a dit l'historien français Roubaud, le peuple peut donner sa croyance à des choses qui sont tout à fait indignes de créance, par contre, la foi a pour seul objet le témoignage de Dieu et ne le discute pas. Dieu a parlé et on ne discute pas. On se soumet. Mais je dirais ceci, si en ce moment nous avions la possibilité d'être ravis dans le ciel, j'espère que vous espérez un jour être ravis dans le ciel, hein. Si en ce moment on avait la possibilité d'être ravis dans le ciel, et pour quelques instants d'être rendus participants de l'omniscience divine, Dieu qui connaît tout, qui voit tout, mais qu'est-ce que nous constaterions avec effroi et étonnement en considérant par exemple ce qu'est la chrétienté, et nous verrions que si une foule de gens affirment encore avoir une croyance, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils ont une croyance, ils ne possèdent pas la foi. Voilà ce qu'on constaterait. Et Dieu voit cela. Des gens ont une croyance. Vous n'allez pas leur dire qu'ils n'ont pas une croyance. Ils ont une croyance. Mais ils n'ont pas la foi. Alors d'emblée, pour rendre plus clair cet exposé et plus personnel, je me permettrai de vous poser cette question très affectueusement. Possédez-vous une croyance ou bien est-ce que vous avez la foi? Ce matin, à 11h30, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez une croyance, une opinion sur des choses religieuses? Ou bien est-ce que vous avez cette foi personnelle, cette révélation de Dieu? Il a parlé. Et maintenant, je veux croire. Oui, je le répète, de nos jours, on rencontre une multitude de gens qui ont une croyance. Parce qu'ils estiment que c'est tout à fait raisonnable de croire en l'existence de Dieu, ils reconnaissent facilement que de rien, rien ne peut naître, et ils ont la même conviction que Voltaire avait. On cite souvent ses vers. Il disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, que cette horloge marche et qu'il n'y ait pas d'horloger. Hein » Vous connaissez cette phrase de Voltaire. Hein. « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge marche et n'ait point d'horloger. » Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit l'auteur de toutes choses. Sauf que l'existence de Dieu, proprement dite, n'est pas un objet de foi. Parce que l'existence de Dieu apparaît comme la vérité la mieux établie, tant par l'ensemble des preuves apportées par la raison et l'écriture, que par la faiblesse des objections des adversaires, quand on étudie un peu cela. Mais la croyance en Dieu, en un être suprême, en une cause première parfaitement intelligente, ne signifie pas encore qu'on possède la foi, qui est une vertu surnaturelle offerte à Dieu à tous les hommes, et par laquelle nous tenons pour vrai ce que Dieu a révélé. La foi, c'est cela. C'est cette vertu, cette force qu'on éprouve en nous et qui nous fait dire ce que Dieu a dit dans ce livre, c'est vrai. Avoir la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe, c'est croire ce que Dieu dit. Parce qu'un tas de gens croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas ce qu'il a dit. De sorte que la foi, l'acte de foi, présuppose l'existence de Dieu et a pour postulat une révélation transcendante, une révélation qui vient d'en haut. S'il n'existe pas de révélation divine, on ne peut posséder aucune certitude quant à notre origine et quant à notre destinée. Si nous sommes abandonnés à nos seules ressources, nous ne connaissons ni notre Créateur, ni la créature, et même, je dirais, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et nous perdons pied. Et tôt ou tard, tout nous semble absurde. Et si nous n'avons pas une révélation qui vient de la part de Dieu, qu'est-ce qu'on se crée? On se crée nous-mêmes notre Dieu. Un Dieu à notre image. Un Dieu qu'on confond avec les forces de la nature. Et alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce que nous sommes? Qu'on appelle en philosophie un panthéisme. Au fond, Dieu, il est partout. Mais on n'est pas un chrétien. Si on confond Dieu avec les forces de la nature, nous ne sommes que des panthéistes. Ou bien alors, si on n'a pas de révélation transcendante, Dieu sera pour nous l'être suprême, ce qu'on appelle dans les loges maçonniques le grand architecte de l'univers, le Dieu inaccessible qui n'intervient plus dans la création. Alors, si tel est notre sentiment, qu'est-ce que nous sommes? Comment est-ce qu'on les appelle, ces gens-là? Des déistes, mais pas des chrétiens. Les gens qui confondent Dieu avec n'importe quoi, c'est ces gens qui adorent tout. J'espère bien que vous avez banni de votre vocabulaire ce mot « adorer ». J'adore ceci, j'adore cela, j'adore ça. On parle de quelque chose. Vous savez, moi, j'adore ça. J'espère bien que vous n'adorerez pas les retraites, Mahanaïm. Ce n'est pas ça que vous adorez. Ce n'est pas ça que vous devez adorer. Un seul Dieu, tu adoreras. Vous pouvez aimer le fromage, mais vous ne direz pas j'adore le fromage. Non, j'adore. Vous pouvez peut-être aimer le cinéma, mais vous direz bien, moi, j'adore le cinéma. J'adore, j'adore, j'adore. Vous entendez que cela. Ou bien quelqu'un, il est adorable. Même si c'est votre enfant, il n'est pas adorable. Oh, comme je vous déçois. J'avais cru vraiment qu'il était adorable. Alors c'est ton petit Dieu. Il est adorable. Puis, c'est des mots qui doivent être exclus de notre vocabulaire. Nous devons avoir des lèvres purifier et avoir un autre langage. La foi, c'est cela qui nous donne vivre de foi. C'est aussi une purification du langage. L'adoration reste pour qui? Pour Dieu. Je ne vous dis rien de nouveau là. Voyez-vous, ce Dieu impersonnel des panthéistes, ce Dieu lointain des déistes, il n'apporte rien au cœur. C'est pourquoi il ne peut pas nous aider dans les moments difficiles. Le besoin de l'humanité, c'est d'avoir Dieu avec elle. Comment est-ce qu'on l'appelle, ce Dieu avec nous? Ce Dieu dont l'humanité a besoin. Emmanuel, Dieu avec l'homme. C'est de lui que nous avons besoin. Dieu qui intervient dans la vie et dans les circonstances des hommes. C'est ça, avoir une vie de foi. C'est croire que Dieu peut intervenir dans toutes nos situations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne passe pas par la souffrance, mais que dans ces souffrances, nous pourrons voir l'intervention du Seigneur et que nous lui resterons fidèles. Mais hélas, ce Dieu unique, le seul vrai Dieu, le vivant, il n'est pas connu de l'homme et les hommes ne le cherchent. Ils nous disent, bon, si Dieu était juste, mais quelle question absurde. Si j'ai affaire avec le vrai Dieu, Dieu est juste. Mais enfin, comment, si Dieu était puissant, Mais si j'ai affaire avec le vrai Dieu, il est puissant. Nous connaissons un Dieu juste, même quand nous sommes dans les épreuves et que l'on commet à notre égard toute espèce d'injustice, nous proclamons que Dieu est juste. Parce qu'il n'était pas le Dieu juste, ce ne serait pas Dieu. Dieu ne peut qu'être juste. Il y a peut-être des voies que je ne comprends pas, mais c'est normal. Ces voies ne sont pas mes voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais se poser encore une fois la question, mais est-ce que Dieu est juste? Puisqu'il permet ceci, puisqu'il permet ça, c'est ne pas avoir le vrai Dieu, la connaissance du vrai Dieu, du Dieu vivant, qui m'appelle à vivre deux fois, mais une foi qui est une patience. Et alors, quand la foi que je connais comme une patience, eh bien, j'apprends à ne plus douter de Dieu. Alors, je vous demande, quelqu'un entendra-t-il aujourd'hui la voix de Dieu ? C'est toi qui dis comme autrefois au prophète Ésaïe, pourquoi suis-je venu? Et il n'y a eu personne. Vous connaissez le passage, Ésaïe 50. Dieu, le vrai Dieu, celui que le monde ne connaît pas, celui que ce monde en désarroi ne connaît pas. Il dit, mais pourquoi suis-je venu? Et il n'y a eu personne. Dieu voudrait être connu des hommes dans leur situation, dans leurs circonstances les plus difficiles. Il est là, pourquoi suis-je venu ? Et il n'y a eu personne. On court pour se débrouiller soi-même. On a ce fameux verset de je ne sais pas trop quelle Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez ce verset ? Dans quelle version ? Non, on nous dit, c'est ça, mais on ne peut pas rester là, sur une chaise, comme vous y étiez tout à l'heure. Non. Alors, il faut se lever, il faut agir. Mais, et quand on a agi, quand on a tout essayé, et qu'on est désespéré, tout d'un coup, peut-être qu'on se met à prier. Dernier moyen, peut-être encore ça. Il fallait commencer par là. On aurait perdu beaucoup moins de temps. Mais la prière, c'est au dernier moment qu'on commence à crier. Mon Dieu, alors là, oui. Il y avait un athée qui était sur un bateau qui était en train de sombrer. Puis il avait fait des conférences pendant toute la traversée. Il avait essayé de semer son athéisme dans tous les cœurs. Et puis, il préparait bien ses conférences dans sa cabine. Et puis voilà, tout à coup, on annonce que le bateau va sombrer. Alors il est sur le pont avec les autres qui ont l'entendu, qui crient « Mon Dieu !» Quelqu'un lui dit « Mais vous nous avez dit que vous étiez athée. »« Oh, mais je suis athée seulement dans mon cabinet d'études, mais quand le bateau sombre, c'est plus la même chose. Hein? » Et c'est ça, hein? C'est ça, quand ça va mal, alors tout d'un coup, et pourtant, si Dieu existait, mon Dieu, pourquoi ai-je appelé et il n'y a eu personne? Pourquoi ai-je parlé? Il n'y a eu personne qui réponde. Quand vous êtes dans votre chambre, dans le silence, là, dites-tu au Dieu, révèle-toi à moi. Je suis sûr qu'il vous répondra. Si vous êtes humble. J'ai vu dans mon ministère tant de personnes qui ont pu faire ça. Je leur disais, mais demandez. Puis après, quand je revoyais certaines personnes, j'ai dit, tu as demandé? Non. Pourquoi? Il avait peur que Dieu réponde. Parce que si Dieu répond, c'est que ça va changer quelque chose dans notre vie. Alors on est mieux ne pas l'entendre. On est mieux ne pas l'entendre. Alors on est mieux ne pas lui dire, oh Dieu, révèle-toi à moi. Mais comment voulez-vous que Dieu intervienne favorablement dans le monde et dans nos vies, alors qu'avec toute notre croyance, nous tournons le dos à Dieu, ne manifestant que mépris ou indifférence pour sa parole? Moi, je suis bouleversé ces temps, j'en étais malade toute cette année passée, de voir qu'aujourd'hui, on diffuse la Bible partout, mais jamais peut-être encore, autant qu'aujourd'hui, on ne suit pas. On suit l'Écriture, on ne suit pas l'Écriture, on la connaît maintenant. On en discute, on fait des réunions d'études bibliques même. Mais dans la pratique, non. Non. Ça n'a pas d'autorité. Vous croyez en Dieu. Je le répète, c'est bien, mais cela ne sauve pas. Le plus grand des croyants, c'est Satan. Il y croit en Dieu. Et il est même dit que les démons frissonnent dans Jacques, un texte aussi que nous verrons. Ils frissonnent devant lui. Oui, vous avez peut-être une croyance, mais est-ce que nous avons la foi? Cette assurance des choses qu'on espère, cette démonstration dans nos vies de celles qu'on ne voit pas, cette conviction que ça c'est vrai, et qui se manifeste par une confiance, par une obéissance qui nous pousse à nous soumettre au témoignage de Dieu. Et c'est une telle manifestation que le monde commence à nous questionner. Nous voulons évangéliser, mais ayons d'abord une vie qui questionne les gens. Alors, nous allons auprès des gens, nous voulons absolument leur donner un traité ou quelque chose, ils ne sont pas intéressés. Mais s'ils voyaient en notre vie quelque chose qu'ils n'ont pas, cette paix, cette joie, cette confiance, tout en sachant que nous sommes dans des épreuves et des tribulations, qu'est-ce que ces gens feraient? Ils nous questionneraient. Et il est dit, alors, soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte, de la raison de l'espérance qui est en vous. Le meilleur traité, c'est notre vie. C'est un traité qu'on déchirera peut-être. Étienne était un traité vivant. On l'a déchiré, hein. Ça, il faut s'y attendre. Mais, c'est peut-être en dernier lieu. Alors, que notre vie soit un véritable traité. Mais pour que cette vie soit un traité, il faut que nous soyons remplis de cette parole qui nous révèle la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, il n'a fait que rendre témoignage à l'Écriture. Et qu'est-ce que c'était l'Écriture? Son temps? C'est l'Ancien Testament. Il a parlé de tous ces hommes de foi. Alors revenons à ce livre et posons-nous cette question. Est-ce que vraiment ce livre contient le témoignage de Dieu? Le témoignage que Dieu rend à notre sujet, le témoignage qu'il rend au sujet de son Fils, et c'est de la foi à ce double témoignage que dépend notre salut présent et éternel. Croyez-le bien. Donc, pour avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que vous verrez cet après-midi. Dans le texte que vous aurez à lire, la foi vient de quoi? Vous pouvez vous mettre à prier et dire, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Puis, vous vous attendez à ce qu'une petite colombe descende. Non, non, c'est pas ça. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi est une connaissance. Et cette connaissance, il faut l'avoir. Et comment est-ce qu'on peut connaître la parole de Dieu? Ce livre affirme être la parole de Dieu. Alors, je vais prendre connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la foi naîtra dans mon cœur. Mais si vous ne lisez pas les Écritures, si vous ne faites rien pour connaître ce témoignage, vous resterez sans foi. Vous resterez sans foi. Et si vous êtes de ceux qui désirez que votre foi augmente, qu'est-ce qu'il vous faut faire encore? Il faut continuer de lire l'Écriture. C'est en vous attachant aux Écritures que vos progrès seront évidents à tous. Nous croyons que Dieu a parlé dans les Écritures. Et alors, cet après-midi, nous allons contrôler les Écritures. Nous allons voir ce que dit les Écritures, ce qui est essentiel dans les Écritures. Et nous nous poserons cette question, mais est-ce que vraiment nous avons la foi? Est-ce que nous croyons cela? Ça sera un contrôle. Est-ce que c'était assez clair la différence entre la croyance et la foi? Vous savez, un jour, j'avais prêché, c'était à Verdun, c'était à l'église de Béthanie. Puis il y avait passablement de monde et il y avait un homme que je respectais beaucoup et qui avait 65 ans, oui, à ce moment-là. Il est mort maintenant.
Et il est venu à la fin de la conférence. Il m'a dit, mais vous savez, monsieur Racine, j'ai des responsabilités dans l'église, mais il a fallu 65 ans pour que je m'aperçoive que je n'ai qu'une croyance, mais je n'avais pas la foi. Et c'était encore assez tôt pour qu'il ait la foi. Alors, est-ce que vous avez seulement une croyance ou bien est-ce que vous avez la foi? Cette foi qu'on ne peut pas perdre. Parce que la croyance, on peut la perdre. J'abandonne cette croyance pour en prendre une autre si j'ai la vie sauve. Une opinion plutôt qu'une autre. Mais avec la foi, ce n'est pas une opinion. C'est une conviction que c'est la vérité. Et alors on peut mourir pour la vérité. Et que le Seigneur nous accompagne et que nous puissions maintenant restaurer aussi nos corps. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous éclaires et que ton esprit poursuive son œuvre dans nos cœurs, et que les uns et les autres, au contact de ta parole, nous puissions découvrir ces vrais caractères de la foi, les caractères de la vraie foi, de celle qui sauve, de celle qui nous permet de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, de cette foi dans laquelle tu voudrais nous voir vivre dès maintenant et à jamais.